bien, bonsoir à tous. Rebonsoir pour ceux qui étaient là il y a deux semaines. Donc, je reprends simplement quelques mots de résumé pour vous dire ce dont on avait parlé, pour repréciser un peu ce dont on avait parlé il y a deux semaines. Donc, y a-t-il une crise de la philosophie dont il faudrait se préoccuper? C'était cette question qui était posée après des remarques préalables que j'avais faites concernant la pertinence de cette question aujourd'hui. Et à partir de là, on avait donc essayé de définir trois types de crises différents: une crise d'existence, une crise d'identité, une crise de légitimité. Ensuite, trois poncifs avaient été définis par rapport à ces trois questions. Au sens où la modernité répond à ces trois questions de manière parfois très, très clichée, et des clichés qu'on accepte relativement facilement. Quels étaient ces trois poncifs? Le premier, donc, concernant la crise d'identité de la philosophie, on disait que s'opposait aujourd'hui une philosophie universitaire et une philosophie du sens commun, et avec évidemment des lieux et des institutions différentes, que l'une prospérait alors que l'autre était en décadence. Et on avait vu à partir de là qu'on pouvait essayer de réfléchir sur ce poncif, à partir d'un passage de l'enquête sur l'entendement humain de Hume, et sur lequel je reviendrai dans un petit instant. Le deuxième poncif défini, c'était concernant la crise d'existence de la philosophie, crise d'existence à laquelle on répond généralement en disant: mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de crise de la philosophie aujourd'hui, regardez le nombre de livres que l'on peut vendre, jamais autant qu'aujourd'hui les livres de philosophie ne se sont vendus, donc la philosophie se porte très bien. Ça, c'est la réponse aussi qu'on entend généralement sur cette question: y a-t-il une crise d'existence de la philosophie aujourd'hui? Et puis enfin, une crise de légitimité. Le poncif concernant la crise de légitimité, c'est, je l'avais aussi rappelé en quelques mots, à quoi ça sert la philosophie? Est-ce que la philosophie a une légitimité aujourd'hui? Donc la réponse qui est souvent apportée à ça, enfin elle est double généralement, c'est ou bien oui, d'accord, la philosophie c'est complètement inutile, mais on a tellement besoin de choses inutiles dans nos sociétés de consommation que ça fait du bien d'avoir un petit peu de choses inutiles comme ça qui sont là pour rêver, pour se cultiver intellectuellement, etc. Et puis que la philosophie, de toute façon, c'est une matière qui en soi ne serait pas, elle n'aurait pas son objet propre, ce ne serait pas une perspective singulière, mais ce serait une manière de réfléchir sur un peu tout et n'importe quoi. Et donc, de toute façon, ce serait une bonne formation de l'esprit, mais qu'elle n'aurait pas, finalement, cette philosophie de singularité par rapport à d'autres formes de sciences, de savoir, d'art, etc. Voilà, ça c'est la manière dont on répond généralement à ces trois questions. C'est les clichés qui tournent un peu sur l'éventuelle crise d'une philosophie aujourd'hui. Alors, on s'était d'abord intéressé à la crise d'identité. Et là, je voudrais simplement revenir quelques minutes sur Hume, parce que je l'avais utilisé sur un double plan, en fait, et je me suis rendu compte après coup que peut-être mon exposé n'avait pas été très très clair sur ce point. Donc, deux choses. Comment j'avais utilisé Hume? J'avais utilisé Hume pour dire que si vraiment la crise de la philosophie aujourd'hui était une crise identitaire qui opposait une philosophie universitaire et une philosophie du sens commun, si cette crise était vraiment cela, alors il n'y aurait pas, en somme, vraiment à s'inquiéter, parce que c'est une opposition que Hume, au XVIIIe siècle, avait déjà remarquée, et cette opposition, elle ne serait en fait que le reflet d'une tension interne au discours philosophique, qui est, vous vous en souvenez peut-être, d'associer la vérité et la nouveauté. Ça, c'est la phrase finale du chapitre 1, l'enquête sur l'entendement humain de Hume. Au fond, l'opposition entre une philosophie du sens commun et l'opposition avec une philosophie universitaire, ça n'est qu'une philosophie érudite, savante, contre une philosophie plutôt tournée vers le style, l'imagination, la séduction. Ça n'est que le reflet, selon Hume, d'une tension interne à la philosophie qui veut associer la vérité et la nouveauté. Donc si notre crise d'identité aujourd'hui ça était vraiment le reflet de cette tension, alors il n'y aurait pas à s'inquiéter d'une quelconque crise de la philosophie. Sauf que, on avait vu précisément, et cette fois-ci avec Derrida, que, à travers les états généraux de la philosophie, qu'en réalité, l'opposition entre, d'un côté, une philosophie universitaire et une philosophie du sens commun n'était pas une contradiction aussi flagrante, et qu'il y avait en fait une connivence, voire une complicité, ou une cohérence en tout cas, entre la disparition de l'esprit critique dans l'université et la disparition de l'esprit critique dans le sens commun, et qu'en fait il n'y avait pas de réelle opposition entre les deux participent d'un même système politique où le style philosophique en tant que tel tend à disparaître. Et donc, ce qui serait une crise d'identité salutaire serait en fait peut-être bien une crise d'existence. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu avec Derrida. Et donc la conclusion, que c'était la traversée de ce premier poncif. Ce premier poncif nous a permis de montrer donc qu'il n'y avait peut-être pas une crise d'identité salutaire de la philosophie en ce moment, mais bien une crise d'existence. Et il avait aussi marqué, ça je voudrais revenir quelque temps sur ces catégories, l'importance dans un style philosophique réel de la recherche à la fois de la vérité et de la créativité. Et c'était cette opposition, enfin cette tension entre vérité et créativité faisait que la philosophie reposait sur un ensemble d'oppositions créatrices, lesquelles. Donc la vérité, j'avais dit, cherche ce qui est, elle cherche à coller à ce qui est. Alors que, au contraire, la créativité veut faire être ce qui n'est pas encore. Là, du côté de la vérité, on est dans la recherche de... On était dans l'expérience, c'est-à-dire dans une expérience qui vient confirmer une théorie éventuelle, alors que dans la créativité, on est dans l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on cherche à aller vers quelque chose d'inconnu. Et donc, ces tensions entre... Et puis, dernière chose aussi, j'avais dit aussi, peut-être que j'aurai l'occasion de le préciser un peu aujourd'hui, une tension entre la vérité, elle est du côté de l'être, de ce qui est, alors que la créativité, elle est du côté de la résistance du réel. Elle cherche à dépasser une certaine résistance du réel. Donc c'était ce jeu d'opposition-là qui faisait peut-être de la philosophie un discours original et qui a son style particulier. Et donc, il faut voir si ce discours a aujourd'hui une possibilité d'être. Alors c'est ce qu'on va revoir un petit peu aujourd'hui en traversant cette fois-ci le deuxième poncif dont je vous avais parlé, que j'avais rappelé tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, la philosophie se porte bien, on vend énormément de livres. Voilà ce qu'on répond à généralement à cette inquiétude sur la santé de la philosophie aujourd'hui. Alors, on pourrait d'emblée dire que, ici comme ailleurs, comme dans toute bonne société de consommation, on constate si le nombre de livres vendus est un critère de santé de la philosophie, comme dans toute bonne société de consommation, je disais, le critère quantitatif est devenu l'indice de la réalité de quelque chose. Ça déjà, on pourra déjà discuter ce premier point, mais on ne va pas peut-être se borner à la question du quantitatif et du qualitatif, parce que savoir justement s'il y a une qualité réelle des livres de philosophie qui tiennent le devant des librairies aujourd'hui, c'est ça qu'il faut interroger et non pas seulement opposer le quantitatif et le qualitatif. Alors, quelles questions poser, au fond? Qu'est-ce que signifie l'état actuel de vente de livres de philosophie sur l'existence ou non de la démarche philosophique dans notre monde contemporain? Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, cette multiplication de ventes de livres, sur toujours sur le style de la philosophie qui cherche à associer, comme on l'avait vu, vérité et créativité. Eh bien, il me semble que répondre à cette question exige d'interroger le lien entre la philosophie et la question de l'écriture, et notamment du rapport que non seulement l'écrivain, mais que le lecteur aussi a à l'écriture. Au fond, le problème qui se pose, si on veut vraiment savoir s'il y a un style philosophique aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est possible de, aujourd'hui, d'avoir un style d'écriture philosophique, une démarche philosophique, qui prenne en compte donc l'exigence à la fois de la vérité et de la créativité, donc d'un discours qui, d'un côté, ne cède pas au méandre de l'imagination, puisqu'il se veut vrai, mais qui en même temps laisse une place à la créativité, puisqu'il se veut neuf. Donc comment associer ça dans la démarche philosophique? Et qu'est-ce qui fera que cette démarche ne sera pas seulement discours, mais bien discours ancré dans le réel? Au fond, je poserai la question de cette manière-là, mais de manière pas tout à fait innocente. C'est-à-dire, est-ce que la vérité du discours philosophique aujourd'hui, est-ce que la recherche de vérité se confronte encore vraiment au réel, c'est-à-dire quel est le réel de la vérité du discours philosophique aujourd'hui? Je vais préciser, ça paraît un peu abstrait comme question, mais je vais la préciser, cette question, à travers un auteur que j'avais donc évoqué dans les titres que j'avais proposé, c'est Michel Foucault. Alors, Michel Foucault pose précisément cette question dans des cours qu'il donne au Collège de France. Et c'est de ces cours dont je vais vous parler. Alors, je vais vous parler, essayer d'amener quelque chose à partir de cours au Collège de France. Donc, imaginez, il y a un niveau d'érudition dans le discours de Foucault, et notamment parce qu'on va s'intéresser à des textes grecs, à des interprétations philosophiques à partir de textes grecs. Donc, je vais essayer de vous restituer d'abord le contexte général de ces cours, et puis on reviendra à partir de ça, vous allez voir, à la question du livre, à la question de ce que peut signifier la très grande vente de livres philosophiques aujourd'hui. Alors, les cours dont je vais vous parler sont réunis dans un livre qui s'appelle « Le gouvernement de soi et des autres ». C'est donc des cours de Foucault au Collège de France. Dans ces cours, Foucault, au fond, se pose le problème qu'on se pose un peu là aujourd'hui, c'est quelle est la spécificité du discours philosophique. Et pour lui, le discours philosophique est attaché à un terme grec qui est la parésia. Alors qu'est-ce qu'il entend par ce terme? Il cherche, Foucault, d'une certaine manière, à définir la singularité du discours philosophique, et c'est-à-dire à quelles conditions, plus précisément, le discours philosophique ne va pas seulement rester un discours technique, conceptuel, érudit, mais va entrer dans un discours qui fait l'épreuve de la réalité. Quelles sont les conditions pour que le discours philosophique ne soit pas pure érudition, pas pur intellectualisme? Alors d'abord, je vais vous donner de façon très générale les critères qu'il pose d'emblée. Je vous les donne d'abord de manière un peu dogmatique et pour donner le cadre. Et puis ensuite, on verra comment il y arrive. Alors, caractéristique de ce que Foucault appelle la parésia. D'abord, c'est un discours, dit Foucault, qui repose absolument sur le franc-parler. C'est-à-dire, donc il s'oppose évidemment au mensonge, à la flatterie. On n'est pas du tout dans la séduction ni dans la persuasion, dit Foucault. Mais c'est un franc-parler, un discours vrai, qui se distingue de toutes les autres formes de discours vrais, à savoir, par exemple, la démonstration. La démonstration, sur quoi repose la vérité d'une démonstration? Uniquement sur la rigueur logique et la rigueur de l'enchaînement technique des concepts. Donc, la structure rationnelle n'est pas suffisante pour qu'un discours fasse l'épreuve de la réalité. Ce n'est pas non plus un discours qui est lié à la persuasion, donc à tout ce qui concerne la rhétorique. Ce n'est pas un discours qui est lié à l'enseignement, parce que l'enseignement, on est dans la transmission, l'initiation, mais on n'est pas encore dans le franc-parler dont Foucault parle. Et il s'oppose aussi, enfin il ne se limite pas non plus à la discussion. Donc, la caractéristique fondamentale de la parésia, selon Foucault, c'est le fait que c'est un discours qui se risque, qui est sans filet, à aucun moment, qui n'a aucune garantie de vérité dans la rationalité, dans la séduction, dans la persuasion, dans la conviction, dans tous les types que vous voulez. Discours qui se risque. Alors, autre aspect essentiel de ce discours, c'est que ce discours repose sur une entière liberté de parole et que sa dimension publique est essentielle. C'est toujours un discours public et même, on le dira un peu plus tard Foucault, un peu plus tard dans le texte dont je vais vous parler, c'est un discours qui généralement s'adresse au pouvoir et aux institutions. Donc c'est un discours, surtout cet aspect que je vais retenir et sur lequel je vais beaucoup revenir, c'est un discours qui est sans filet, c'est-à-dire sans aucune garantie préalable, sans aucun recours dans la rationalité, ni dans les vérités déjà existantes, ni dans le statut d'enseignant, ni dans le savoir, nulle part. Donc c'est un discours qui repose fondamentalement sur une notion aussi sur laquelle je reviendrai, c'est un discours qui est étonnant et qui repose sur l'étonnement. Alors, voilà, là maintenant j'ai posé le cadre de ce que serait, selon Foucault, le discours philosophique qui fait l'épreuve de la réalité, fait l'épreuve du réel et qui ne se contente pas d'être un discours technique. Alors maintenant, comment il en arrive là? Eh bien, Foucault se fonde essentiellement sur... il revient aux origines de la philosophie, les origines grecques, et il va, dans ses cours de Collège de France, se fonder essentiellement sur des auteurs grecs, et en particulier sur Platon. Et, alors là, je vais vous parler surtout du cours du 16 février 1983, parce que c'est dans ce cours que Foucault pose explicitement la question « Quel est le réel du discours philosophique ?» Alors, il faut essayer de restituer un petit peu le contexte de cette lettre 7 que va analyser Foucault. Les lettres de Platon sont des textes très controversés, on ne sait pas trop si Platon en est l'auteur. Mais il y a une lettre, et en particulier cette lettre 7, qui semble relativement faire foi. Qu'est-ce que raconte cette lettre? Elle raconte, c'est une lettre que Platon envoie à des amis siciliens au moment où il est appelé par un tyran de l'époque qui s'appelle Denis, et où Denis l'appelle pour venir enseigner à Syracuse, pour venir lui enseigner la philosophie. Alors, quel est le contexte? En fait, à ce moment-là, Platon est déjà allé deux fois sur Syracuse, et deux fois, il s'est retrouvé à donner des cours de philosophie à des tyrans, et deux fois, il a risqué sa vie. Parce que... à force de vouloir trop cultiver l'étonnement, à force de vouloir trop contester, à plusieurs reprises, il a risqué sa vie. Donc, la première question que pose Foucault en regardant cette lettre, c'est mais pourquoi il y retourne? Qu'est-ce qui pousse Platon à, comme ça, aller accepter des cours de donner des cours de philosophie à un tyran, alors que deux fois, il a été amené à risquer sa vie? Et Foucault trouve dans la lettre 7 une réponse à cette question, qui est, alors là il utilise les termes grecs, il dit, l'obsession de Platon c'est toujours d'associer le logos à l'ergon, c'est-à-dire le logos c'est tout ce qui est de l'ordre du langage, langage technique, rationnel, logique, donc l'aspect logique et rationnel de la philosophie, à l'ergon, c'est-à-dire l'action, le pratique. Et Platon ne veut absolument pas dissocier les deux. Et qu'est-ce que Foucault en déduit? Il en déduit que la philosophie ne se confrontera, ne sera un discours vrai et véritable qu'à condition de se risquer sur la place publique et en particulier de se risquer dans une adresse au pouvoir. Alors c'est là qu'on va petit à petit retrouver nos moutons. Pourquoi? Donc, Foucault continue d'analyser cette lettre de Platon et raconte un peu ce qui se passe. Donc, premier jour d'enseignement de Platon à Syracuse, Platon essaye de montrer que la philosophie repose essentiellement sur des techniques, des pratiques, mais qui ne sont pas seulement des pratiques d'écriture, de connaissance ou de savoir, mais des pratiques de travail sur soi, d'étonnement, de remise en question de sa conscience. Alors, que se passe seulement? Donc ces cours ont lieu, et puis, au bout d'un moment, Platon est totalement scandalisé et veut arrêter ses cours parce que Denis a eu une attitude absolument inqualifiable, contraire à toute démarche philosophique. Ça le scandalise plus que le fait de risquer sa propre vie. Hein. Qu'est-ce qu'a fait Denis? Au bout de quelques cours, il a écrit un livre. Alors, c'est là que l'interprétation de Foucault va être très intéressante sur la question du rapport de Platon à l'écriture, et on va voir ce que va en déduire Foucault. D'abord, ce livre, c'est ce qui apparaît dans la lettre 7, ce livre n'est que la répétition un peu simpliste de leçons que Denis a eues avec Platon et dont il n'est même pas l'auteur. Mais Foucault précise que c'est même pas forcément le problème, ça. Le problème, c'est pas une question de droit d'auteur ou de plagiat. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que là, à nouveau, alors Foucault va faire un peu d'érudition, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à un terme en particulier qui apparaît dans la lettre 7, où Platon dit que la philosophie ne se transmet pas sous la forme de mathémata. C'est le terme grec employé. Et donc, Foucault, à partir de ce terme, va analyser la question du rapport à l'écriture chez Platon. Alors, mathémata, en grec, selon Foucault, et je le crois sur parole parce que je ne suis pas helléniste, mais sur ce point, enfin, il y a probablement des hellénistes dans la salle, vous corrigerez si c'est faux, mais mathémata veut dire deux choses, c'est à la fois la connaissance comme forme, et aussi comme contenu. C'est un contenu de connaissance, et c'est une connaissance, ce qu'on retrouve un peu aujourd'hui dans le mot mathème, Donc ce n'est pas forcément uniquement que les mathématiques. Hein. D'accord ? C'est tout ce qui concerne une connaissance formalisée et... comment dire ? Écrite sous la forme de mathème. Et donc, ce qui scandalise Platon, c'est ce qu'analyse Foucault, c'est que la philosophie n'est pas quelque chose qui se transmet sous la forme de mathémata. C'est-à-dire, la philosophie n'est pas quelque chose qui se fait ou qui s'apprend à travers des dogmes, des vérités établies, et ce n'est pas ce qui s'apprend à travers la lecture d'un livre. On peut être dans la question, quand on est dans le rapport à un livre, on peut être dans la question de la connaissance. On peut être dans la question du constat d'une vérité. On peut être dans la science. On peut être dans le savoir. Mais, à aucun moment, la philosophie ou la démarche philosophique, le fondement de la démarche philosophique, ne se transmet uniquement, à aucun moment la philosophie ne se transmet que sous la forme d'une connaissance. Alors, à nouveau, là, Foucault analyse plusieurs éléments chez Platon sur la question de la connaissance. Pour Platon, il y a 5 éléments qui permettent la connaissance, selon Foucault. Le nom, la définition, l'image, la science, et puis, là c'est un terme un peu étrange que Foucault va analyser après, quelque chose qui ressemble, enfin un mot qui signifie quelque chose comme le frottement, la confrontation. Et donc, Foucault interprète ce texte en disant que chez Platon, ces 5 éléments ne sont jamais dissociables les uns des autres. Autrement dit, la philosophie, dans le style philosophique, il ne faut pas se contenter du nom, de la définition ou de l'image, parce que là, on est uniquement dans la technique. Il faut toujours que ce nom, cette définition, cette image, se confronte, se frotte à l'épreuve dans la réalité qui est l'adresse au pouvoir, l'adresse aux institutions. Donc, je reviens un petit peu sur dans le contexte global de l'exposé ici. Que dit Foucault au fond à partir de cette lettre ? Que le livre est un, si on s'en tient à Platon, un véhicule de connaissance formidable. Certes, mais à aucun moment le fait d'écrire un livre n'incarne la démarche philosophique. À aucun moment non plus le fait de lire beaucoup de livres n'est un indice suffisant de la démarche philosophique. Il n'y a pas de démarche philosophique tant que par rapport à ce livre, par rapport à l'écriture, tant qu'un certain rapport, pardon, à l'écriture ou un certain rapport au livre ou au mathémata, un certain rapport à la connaissance s'institue. Autrement dit, toujours pour globaliser un petit peu, si on revient à la tension entre vérité et créativité à partir qu'on avait vu à partir de Hume, pour qu'il y ait vraiment une démarche philosophique, il faut nécessairement que la vérité soit couplée à une démarche de création, et cette démarche de création, elle suppose l'étonnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En fait, à travers ce texte, Foucault, c'est un prétexte pour lui pour traduire une inquiétude philosophique qui est née à peu près au début du XXe siècle, et notamment dans la philosophie française. C'est la crainte, justement, de voir réduire la philosophie à une forme de connaissance et à une simple recherche de vérité. De très nombreux, je vous en citerai d'autres, mais plusieurs philosophes du début du XXe siècle, et même si on continue jusque dans les années 70, 80, même 90, l'inquiétude commune qui est née ici, c'est la crainte que la philosophie perde petit à petit sa recherche de nouveautés. Qu'elle se contente de perpétuer des connaissances telles qu'elles sont. Et au fond, pour revenir à des choses aussi là institutionnelles, concrètes, là il y a quelque chose d'intéressant parce que, par exemple aujourd'hui, si vous regardez les concours de recrutement des professeurs de philosophie, ces concours sont des concours qui ont certaines vertus, mais qui reposent sur quoi essentiellement ? Sur ce qu'on appelle l'histoire de la philosophie. Autrement dit, il faut connaître un certain nombre d'idées, il faut connaître un certain nombre de relations entre des concepts, qui a influencé qui, comment. Il faut connaître l'histoire des idées. Et même, je vous le dis, je l'ai un peu pratiqué, les exercices qui vous sont demandés, dissertation, explication de texte, encore une fois, qui ont certaines vertus, mais ce sont des exercices où vous pouvez très très bien vous en sortir avec de la simple histoire de la philosophie, sans aucune démarche philosophique. Il y a de la connaissance, c'est vrai. Il y a un certain génie intellectuel, ou en tout cas une certaine intelligence dans l'articulation des concepts entre eux, mais il manque l'essentiel, il manque l'étonnement. Alors, je vous disais, c'est une inquiétude un peu partagée. Je voudrais... Foucault n'est pas le seul à s'interroger comme ça sur la question du rapport à l'écriture et la question du rapport au livre à travers Platon. Je voudrais vous parler d'un autre philosophe brièvement, mais un philosophe qui m'est cher, c'est Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, en 1952, rentre au Collège de France et fait une... Vous savez, quand vous rentrez au Collège de France, il y a toujours... donc c'est une très très grande institution de la science et du savoir à Paris. C'est le summum de la carrière universitaire, le Collège de France. Et à chaque fois qu'un professeur est nommé au Collège de France, il fait un discours inaugural. Ce discours inaugural, on le retrouve aujourd'hui dans un livre de Merleau-Ponty qui s'appelle « Éloge de la philosophie ». C'est son discours inaugural au Collège de France. Et d'une certaine manière, vous allez voir que il n'y va pas forcément de main morte avec la philosophie institutionnelle. Voici ce qu'il dit. Il y a lieu de craindre que notre temps, lui aussi, rejette le philosophe en lui-même et qu'une fois de plus, la philosophie n'y soit que nuée. Car philosopher, c'est chercher, c'est impliquer qu'il y a des choses à voir et à dire. Or, aujourd'hui, on ne cherche guère. On revient à l'une ou l'autre des traditions, on la défend. Nos convictions se fondent moins sur des valeurs ou des vérités aperçues que sur les vices ou les erreurs de celles que nous ne voulons pas. Nous aimons peu de choses si nous en détestons beaucoup. Notre pensée est une pensée en retraite ou en repli. Chacun expie sa jeunesse. Cette décadence est en accord avec l'allure de notre histoire. Passé un certain point de tension, les idées cessent de proliférer et de vivre. Elles tombent au rang de justification et de prétexte. Ce sont des reliques, des points d'honneur. Et ce qu'on appelle pompeusement le mouvement des idées se réduit à la somme de nos nostalgies, de nos rancunes, de nos timidités, de nos phobies. Donc, selon lui, l'état de la philosophie, donc en 1952, consiste à, finalement, se référer à des traditions philosophiques, se référer à de grands auteurs, à défendre certaines traditions. À cette période-là, en plus, en France, c'est vraiment c'est tout à fait vrai, parce qu'en plus, on a à ce moment-là, en France, des grandes traditions philosophiques qui s'affrontent, parce que toute la philosophie analytique, notamment, commence à entrer en France, et ouais, peu importe, mais il y a des débats, il y a des querelles de paroisse extrêmement importantes à cette période-là. Et voici la cause, enfin, l'une des causes de tout cela, selon Merleau-Ponty. Pourquoi est-ce que la philosophie se réduit à un savoir, à quelque chose qui n'est plus tout à fait en accord avec la démarche philosophique? Voici ce qu'il dit. Le philosophe moderne est souvent un fonctionnaire, toujours un écrivain, et la liberté qui lui est laissée dans ses livres admet une contrepartie. Ce qu'il dit entre d'emblée dans un univers académique où les options de la vie sont amorties et les occasions de la pensée voilées. Sans les livres, une certaine agilité de la communication aurait été impossible et il n'y a rien à dire contre eux. Mais ils ne sont enfin que des paroles plus cohérentes. Or, la philosophie mise en livre a cessé d'interpeller les hommes. Ce qu'il y a d'insolite et presque d'insupportable en elle, c'est caché dans la vie décente des grands systèmes. Pour retrouver la fonction entière du philosophe, il faut se rappeler que même les philosophes auteurs que nous lisons et que nous sommes, n'ont jamais cessé de reconnaître pour patron un homme qui n'écrivait pas, qui n'enseignait pas, du moins dans les chaires de l'État, qui s'adressait à ceux qu'il rencontrait dans la rue et qui a eu des difficultés avec l'opinion, avec les pouvoirs. Il faut se rappeler Socrate. Alors, que déduire de tout cela sur la question du livre? Ni Foucault, ni Merleau-Ponty, non, ni Platon, n'ont pour intention de condamner l'écriture, ni même le livre. Ça n'a pas de sens. Ce qui est ici en question, c'est le problème d'un certain rapport à l'écriture. Aujourd'hui, ce rapport à l'écriture, quand Merleau-Ponty dit « la philosophie mise en livre a cessé d'interpeller les hommes », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre rapport à l'écriture se déroule essentiellement, je vous donnerai un exemple après, sous le mode du savoir. Autrement dit, qu'est-ce qu'un livre pour nous? Et un livre de philosophie en particulier, c'est une source de connaissance, c'est un moyen d'érudition, c'est un moyen d'augmenter peut-être notre connaissance de l'histoire, mais ça n'est pas quelque chose qui nous interpelle, c'est-à-dire quelque chose qui suscite en nous une forme d'étonnement, de questionnement profond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, après tout, ça veut dire déjà que le texte de philosophie n'est pas un texte sacré, loin de là. Un texte de philosophie, il faut le malmener, il faut discuter avec lui, il faut l'interroger, il faut... Ce n'est pas parce que Descartes a dit telle chose que Descartes a raison. Il y a un rapport purement dogmatique aujourd'hui à l'écriture philosophique qui fait que nous sommes vraiment dans soit l'érudition, soit la consommation du savoir, mais plus dans l'étonnement. À quoi ça se voit? À des choses très simples. On peut passer, et ça n'a absolument rien d'absurde, plusieurs années à s'interroger sur 10 pages d'un texte philosophique. Pas au sens où un universitaire va passer des années sur la présence d'une virgule dans un texte, mais au sens où un texte philosophique, même si c'est que 10 pages, un texte philosophique doit susciter le questionnement, et un questionnement concret. Un questionnement, qu'est-ce qui est remis en question? Et je voudrais, parce que ça ce sont des mots, je voudrais vous en donner un exemple de ce type de rapport au savoir, aujourd'hui dans le ce type de rapport à la philosophie aujourd'hui et de rapport au livre. Est-ce que j'ai encore un peu de temps pour le développer? Oui. Un exemple de la question de l'autorité. Vous savez que le problème de la disparition de l'autorité, c'est un grand thème actuel. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette disparition de l'autorité, cette disparition des valeurs, cette disparition, etc. Alors, si on se place du point de vue de la philosophie du sens commun et des livres qui sont vendus sur la question de l'autorité. À partir de quoi, dans les livres, aujourd'hui, on réfléchit sur la question de l'autorité, dans l'espace public? Le débat se concentre essentiellement sur une chose. Mai 68. Pourquoi? Parce que, alors, évidemment, il y a les slogans de 68, mais parce que Luc Ferry et Alain Renaud ont écrit un livre qui s'appelle La pensée 68, c'était dans les années 80, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Et dans ce livre, finalement, Luc Ferry et Alain Renaud pensent que, au fond, la perte des normes, la perte d'autorité est lié à l'idéal de 68, un idéal qui se retrouverait chez un très grand nombre de philosophes et de psychanalystes dans la philosophie du XXe siècle. Alors on passe à la fois Bourdieu, Freud, Deleuze, Derrida, j'en oublie, Foucault. Tous ces gens seraient responsables d'une certaine façon de la chute de l'autorité à cause de leur philosophie, ce sont des gens qui se sont reconnus dans l'idéal 68art. Et bref, le débat consiste à savoir si l'autorité a disparu depuis mai 68 ou pas. Ça, c'est dans ce qui se connaît de l'espace public. Passons dans le domaine universitaire. Question de l'autorité. Dès que vous démarrez des études de philosophie, dès que vous vous intéressez un petit peu au pouvoir politique et à la question de l'autorité, l'auteur qui arrive, c'est Hannah Arendt. Tout de suite, tout le temps. Alors, n'importe quel étudiant de philosophie connaît Hannah Arendt. Alors, qu'est-ce qu'on connaît d'Hannah Arendt? On connaît donc le petit passage de La crise de la culture consacré à qu'est-ce que l'autorité, et qu'est-ce qu'on nous enseigne sur l'autorité généralement? Eh bien que l'autorité se distingue d'une forme de pouvoir par la coercition, que l'autorité se distingue, maintient la liberté, que c'est une forme de pouvoir particulière, ça n'est pas un autoritarisme. Bref, on nous enseigne tout ce qui distingue l'autorité des autres formes de pouvoir, et en quoi c'est vraiment une forme de pouvoir très intéressante. Et puis il y a des thèses, il y a des multiples explications, etc. En revanche, à aucun moment, je n'ai vu, à aucun moment au cours de mes études, ni même dans le après, on utilise ce texte pour essayer de penser la disparition de l'autorité au XXe siècle. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que tous ces éléments de la définition de l'autorité sont connus dans le monde universitaire. Par contre, qu'est-ce qui est beaucoup moins connu? Alors, s'il y a quelques aspects connus, mais je vais y revenir. Hannah Arendt donne des causes de cette disparition de l'autorité. Lesquelles? La disparition progressive de la religion et des traditions. Mais elle analyse aussi des causes beaucoup plus profondes et beaucoup plus complexes aussi. Mais il faut aller un peu plus loin dans le dans le livre Qu'est-ce que l'autorité ? Je ne sais pas, certains d'entre vous ont déjà lu Qu'est-ce que l'autorité ? Anna Arendt ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce que vous savez quelles sont les causes données par Anna Arendt dans la disparition de l'autorité ? Alors là, ça devient très intéressant. Anna Arendt, elle écrit ce texte c'est dans les années 50, ça doit être 57, si je ne dis pas de bêtises, 57-58. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle explique donc les causes de la disparition de l'autorité, et notamment, elle pointe une chose, l'une des causes principales de la disparition de l'autorité au XXe siècle, c'est la suprématie de la pensée libérale. Alors là, moi ça, je ne l'ai jamais entendu dans mes études. Jamais. C'est la cause dont on ne parle jamais. Elle parle d'une autre cause aussi, ce qu'elle appelle l'aspect fonctionnalisant en sociologie. Mais là, c'est un peu plus complexe, laissons de côté. Mais déjà, la question de la pensée libérale, qu'est-ce qu'elle explique ? Elle explique que la suprématie de la pensée libérale affecte... Alors, le libéral, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, là, on n'est pas seulement dans le libéralisme économique, on est dans toutes les théories qui datent de Locke, c'est-à-dire du XVIIe siècle et toute la tradition, toutes ces théories qui insistent sur l'émancipation de l'individu par rapport à l'État, notamment, et même vis-à-vis de toutes les formes d'autorité. Et donc, ce qu'explique Anna Arendt, c'est que, de plus en plus, en fait, entre le libéralisme et le conservatisme, il y a un point commun. Ils tournent autour de la même chose. Le propre du libéralisme, c'est de redouter toutes les formes d'autorité, et donc de les détruire le plus possible et de mettre dans le même panier, selon Anna Arendt, de mettre dans le même panier toutes les théories qui seraient un tout petit peu normalisantes ou, non pas autoritaires parce que ce n'est pas le bon terme, mais qui instaureraient un fondement d'autorité. Ça veut dire qu'on a mis dans le même sac des théories qui associent parfois autorité et liberté, des théories tyranniques, des théories totalitaires, on a mis tout ça dans le même sac. Et donc, toutes les formes d'autorité ont peu à peu disparu. Alors, on comprend que Luc Ferry et Alain Renaud, étant donné leur tendance politique, soient plus intéressés par mai 68 que par le détail du texte d'Anna Arendt. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a un texte extrêmement puissant sur la question de l'autorité, qui est archi connu dans le milieu universitaire. Très peu connu dans l'espace public, et dans l'espace public, à partir de quoi on réfléchit ? À partir d'auteurs qui se fondent uniquement... Enfin, il y a quand même mai 68, je suis attaché à mai 68, hein, mais il n'y a quand même pas eu que mai 68 au XXe siècle. Quand on veut expliquer un mouvement de disparition d'autorité de cette manière, il faut essayer quand même d'aller un tout petit peu en profondeur. Donc, soit on réfléchit à partir d'espèces de caricatures qui sont, il faut bien le dire, l'enjeu est là, est des caricatures politiques, c'est-à-dire qu'on occulte volontairement un certain nombre de pensées parce que ça nous arrange pas politiquement, ou alors on est tellement préoccupé par les distinctions conceptuelles, la technique, l'érudition, à resituer Anna Arendt dans un héritage politique, que le lieu où elle nous interpelle, le moment où elle pose une question sur ce qui se passe réellement dans notre époque, ça, on n'interroge pas. Ça pourrait être quand même intéressant de... d'avoir avec ce livre un rapport justement d'étonnement. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que la pensée libérale ? Par exemple, comment elle se définit ? Quelles sont ses conséquences aujourd'hui ? Etc. Il y a des textes qui suscitent l'étonnement philosophique. Et on peut passer sur le texte d'Anna Arendt, croyez-moi, beaucoup de temps tellement il est complexe. Et il suscite l'étonnement. Donc là, on retrouve d'une certaine façon... aussi ce qu'avait dit Derrida. Il y a quelque part une forme de connivence entre la philosophie, ce qu'on appelle la philosophie du sens commun, et la philosophie universitaire. C'est que les deux réduisent le rapport à l'écriture et au livre à une question de savoir. Ou bien, pour cultiver le savoir dans la plus grande érudition technique à l'université, ou bien, de façon un peu mondaine, pour le consommer, briller en société, ou bien encore, se satisfaire, quelque part, face à un livre de philosophie, retrouver un peu son... Merleau-Ponty parlait de ressentiment, sa phobie, retrouver ses petites satisfactions. Et ça, c'est vrai. Un indice, à mon avis, d'un texte qui est authentiquement philosophique, un texte qui est authentiquement philosophique, vous n'êtes pas satisfait après l'avoir lu. Si vous vous retrouvez dans un texte philosophique, vous vous dites tout de suite « Ah, ça pose des mots sur ce que j'ai toujours pensé », c'est satisfaisant, ça arrive à tout le monde, c'est très flatteur, mais si ça ne vous dérange pas, un texte philosophique, si ça ne pose aucune question, si ça vous laisse dans un état de conscience qui était le même avant la lecture, et les indices de ça, du point de vue de l'écriture, il y en a de nombreux. Par exemple, l'ensemble des livres philosophiques qui occupent le devant de la scène et qui reposent sur des simili-théories du complot. Attention, on vous a menti toute votre vie, on vous a dit que... etc. Le on, déjà, on ne sait jamais qui c'est. On vous enseigne telle chose, mais ce sont toujours les mêmes choses qu'on vous enseigne, etc. La théorie du complot, c'est le meilleur moyen de la flatterie du lecteur. On est tellement heureux de savoir que, en fait, dans cette société, on est un peu persécuté et qu'on est tellement heureux que quelqu'un le dénonce, on se satisfait très facilement de ça. À mon avis, c'est ce que j'ai essayé de montrer déjà un petit peu. Un texte philosophique, il suscite l'étonnement. Et ça, j'y viendrai sur la question du style philosophique demain, mais l'étonnement, c'est pas la surprise. C'est pas la même chose. La surprise, c'est bien une surprise, c'est toujours satisfaisant. La surprise, c'est quelque chose d'inattendu, mais on arrive toujours à posteriori à l'expliquer, on revient à nos représentations. L'étonnement, c'est pas ça, hein. L'étonnement philosophique, étymologiquement, l'étonnement, c'est un bouleversement. C'est une rupture. Ça veut dire que ça crée un vide en vous, l'étonnement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on sent comme vrai, mais qu'on n'a pas de mots pour décrire. Et là, il y a, à mon avis, quelque chose vraiment qui est à modifier dans notre rapport à la philosophie, et qui, justement, c'est pour cette raison que je m'inscrirai en faux sur la question de l'indice du livre aujourd'hui. Le nombre de livres qu'on vend en philosophie, à mon avis, n'est pas du tout l'indice d'une quelconque existence de la démarche philosophique aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'elle avait disparu non plus, hein, mais à mon avis, on ne peut absolument pas se fonder là-dessus pour dire que la philosophie et sa démarche et son style sont présents. Donc, ce qu'il faudra qu'on voit, mais... Oui, je vais vous laisser parler maintenant, mais ce sur quoi maintenant je voudrais quand même insister, parce que c'est bien beau de dire que tout ce qui n'est pas le style philosophique, à travers ses poncifs, mais peut-être qu'il va falloir aussi tenter de dire ce qu'il est. Et donc ça, ce sera demain. Je vous remercie.